Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être avec nous. Le matin, tous les matins, depuis lundi maintenant, on prend nos bonnes habitudes. 0826 300 300, c'est votre numéro de téléphone. Nous ouvrons la porte, vous êtes avec nous, venez participer à cette émission. Nous allons aborder plusieurs sujets très importants et des sujets qui nous concernent tous. D'abord, le prix de l'énergie. Mais le prix de l'énergie, pour nous particuliers, pour les entreprises aussi. Prix de l'électricité, prix du gaz. Est-ce qu'il va y avoir des pénuries? Est-ce qu'il y aura des coupures? Quelles coupures? Et d'ailleurs, est-il possible de couper le gaz? Parce que, imaginons, on coupe le gaz, mais il faut le remettre après. S'il y a des coupures comme ça, d'une demi-heure, d'une heure, ou de deux heures. Et à chaque fois, il y aura un employé du gaz qui va venir pour remettre le gaz. Mais non, mais c'est une question que je pose. Je réfléchissais à tout cela. Nous allons parler donc du prix de l'électricité qui explose, des coupures éventuelles. Nous allons avoir plusieurs intervenants dans notre première demi-heure de 10h30 à 11h, ensuite de 11h à midi. C'est un grand sujet. Faut-il octroyer une plus grande autonomie aux écoles et établissements publics? Les écoles et établissements publics, écoles primaires, mais aussi collèges et lycées. Plus grande autonomie, c'est l'un des grands sujets de la rentrée. Aujourd'hui, c'est la rentrée des enseignants. Grand sujet de la rentrée. Nous aurons plusieurs invités sur le sujet, notamment Monique Cantos-Perber, qui a écrit « Une école qui peut mieux faire » aux éditions Albin Michel. Et puis, les bébés secoués, il y a une recrudescence, malheureusement, des bébés secoués entre midi et midi et demi. Nous serons en ligne avec un pédopsychiatre. Nous reviendrons sur ce sujet. Il est quelle heure? Il est déjà 10h32. Ça passe vite, 0826 300 300. Vous appelez, vous réagissez, vous êtes avec nous. Le prix de l'électricité, le prix de l'énergie, le prix du gaz. Nous allons commencer tout de suite avec Martine Blanc-Delanotte. Martine Blanc-Delanotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes habitante d'une copropriété, membre du conseil syndical de la Renardière. La Renardière, c'est à Coubron, en Seine-Saint-Denis, c'est bien cela?
C'est bien cela, oui.
Bon, copropriété avec une augmentation de la facture d'électricité, une augmentation mais vertigineuse.
C'est ça, oui, c'est ça.
C'est-à-dire vertigineux. Allez-y.
Alors, en fait, donc, je vous pose le tableau. Donc, on est une copropriété avec 134 appartements qui représentent à peu près 500 habitants. Et nous avons un système de chauffage collectif électrique.
Oui.
Qui demande une puissance pour fonctionner de 470 kVA.
Attendez, parce que là, 470, expliquez-nous, parce que là, nous ne comprenons pas.
470 kVA, c'est la puissance qui est nécessaire pour que notre chauffage collectif fonctionne.
Combien de personnes qui vivent?
134 appartements et à peu près 500 habitants.
500 habitants, 134 appartements. Très bien.
Voilà. Donc, nous sommes sur un transformateur de haute tension.
Oui.
À ce titre-là, nous ne pouvons pas bénéficier du bouclier tarifaire qui, lui, est octroyé uniquement pour les consommateurs qui vont jusqu'à 36 kVA.
Bon.
Donc, on a eu un affolement total lorsqu'on a vu la proposition que nous fait EDF sur notre facture, à savoir qu'on passerait de 7 centimes à peu près hors taxe d'euros au kilowattheure à 92 centimes du kilowattheure.
De 7 centimes à 92 centimes.
C'est ça. Donc on est sur une hausse qui est à plus de 1200%.
Plus de 1200%, oui, la facture est salée, là.
Voilà, la facture est insupportable par les gens.
Oui, elle est insupportable. Hein. Bon, Martine Blanc-Delanotte. Donc, si j'ai bien compris, chaque copropriétaire va devoir payer cette facture ou pas? Vous avez engagé des recours, vous avez...
Absolument, absolument. Dans l'instant, nous n'avons bien évidemment pas signé ce contrat.
Oui.
Nous cherchons des solutions.
Oui.
Pour essayer de faire appliquer ce bouclier tarifaire, puisque, en fait, cette puissance qui nous empêche de l'obtenir, elle aboutit sur des particuliers.
Bien sûr.
En toute légalité, les particuliers sont éligibles à ce bouclier tarifaire. Donc, nous envisageons plusieurs pistes. Hein. On a vraiment.
J'imagine.
Voilà, donc, oui, je vous écoute.
Non, Martine Blanc-Delanotte, vous envisagez plusieurs recours, donc vous avez engagé des recours, nous verrons, nous suivrons, parce que 1200% d'augmentation, est-ce que vous savez si d'autres copropriétés sont dans le même cas
Alors,
que le vôtre?
On pense que oui, parce que, donc, si vous voulez, on a commencé par activer la presse écrite,
qui
apparemment a interrogé le ministère de la Transition énergétique, qui est bien consciente qu'on est victime d'un effet de bord.
Oui.
Donc, il y a un trou dans la raquette.
Oui.
Et ils nous ont confirmé qu'on était plusieurs, bon, pas beaucoup, puisque c'est un effet de bord, donc on est une exception. Il y a quelques autres copropriétés qui sont victimes de ce problème.
Bien. Alors, Martine Blanc-Delanotte, nous allons prendre Mathieu Lassagne, qui est président de Zenergy, qui est une start-up qui développe des centrales solaires et les parcs photovoltaïques. Nous allons parler avec lui de ces éventuelles, de ces hausses du prix de l'électricité et des éventuelles coupures possibles. Fabien Gay, qui est aussi avec nous, qui est sénateur communiste à Seine-Saint-Denis et qui suit ces problèmes d'énergie. Mais je vous demande, appelez-nous, 0826-300-300, si vous êtes vous aussi inquiet devant les factures futures. Tiens, je vais prendre Eric, qui est à Bourg-de-Péage, dans la Drôme. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous Eric.
C'est moi qui vous remercie.
Je tenais à évoquer ces problèmes d'électricité, de coûts d'électricité, parce que c'est l'une des grandes préoccupations de cette rentrée. Évidemment, vous le constatez, on en parle partout. Eric, vous, quelle est votre inquiétude ?
Ben justement, le pouvoir d'achat qui en prend un coup. Hein. On a déjà commencé à réduire les activités, hein, c'est évident. Hein. Les factures d'électricité augmentent, etc., l'essence et tout. Donc, obligatoirement, la vie va changer. Hein. Ça, c'est évident. En plus, bon, moi, je suis une personne en situation de handicap. Je perçois l'allocation adulte handicapé. On en a bien parlé ces dernières semaines. On est toujours, malgré les promesses non tenues de notre cher président, on est quand même toujours 200 euros en dessous du seuil de pauvreté.
Oui.
Et comme on n'est pas sur l'indexation, on va obligatoirement encore baisser. Donc je pense qu'en janvier 2023, l'allocation adulte handicapé sera encore moins importante que ce qu'elle était quand M. Macron est arrivé. Mais voilà, pour l'électricité et tout, c'est vrai que c'est...
Oui.
Un problème,
je comprends et nous comprenons votre inquiétude, une inquiétude partagée par de nombreux Français, de nombreux Français, oui. Éric, vous êtes à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Je vais prendre tout de suite Florence à Toulouse qui a aussi des inquiétudes, j'imagine. Florence, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Olivier Bourdin. Bonjour, ma chère Florence. Alors,
ça fait plaisir de vous entendre de nouveau.
Bah, moi aussi, ça me fait plaisir, Florence. Toulousaine, Florence.
Oui. Oui.
Alors, vous aussi, la facture d'électricité, vous vous inquiétez ?
Ben écoutez, oui, je m'inquiète parce que, en fait, je trouve ça extrêmement, bizarre. Nous sommes quand même un pays où nous avons des centrales nucléaires. Nous retrouvons avec un programme avec notre cher président où on a déjà fermé deux centrales nucléaires et 12 sont prévues à la fermeture.
Oui.
Puisque le texte est toujours en vigueur, hein, de fermeture des centrales nucléaires.
Oui, d'ailleurs c'est un sujet, vous avez tout à fait raison de soulever la question, c'est un sujet que je vais traiter vendredi. Effectivement, il y a un texte de loi qui dit que des centrales nucléaires vont être fermées. Est-ce qu'il faut abroger, revenir, sursoir, je ne sais pas. Nous allons en parler vendredi. Vous avez raison, hein, Florence.
Mais oui, parce que finalement, on se retrouve avec, grâce à l'Europe, à vendre notre énergie pas chère pour les concurrences déloyales avec les autres pays. On la rachète plus cher, mais concrètement, ça arrive sur nous, les consommateurs. Ça sera impossible de tenir. Les gens ne pourront pas payer ces factures d'électricité.
Exactement.
Tout en ayant une solution qui nous appartient à la France, quoi. Donc
oui.
Moi, je veux bien me priver, si vraiment, bien sûr, on était dans le... Il n'y a pas de souci, mais là, c'est complètement incohérent.
Oui.
C'est complètement... ils vont couper l'électricité. Il y a, comme le monsieur disait, il y a des gens handicapés qui ont besoin de l'électricité pour des appareils, je ne sais pas, moi, respiratoires ou autre chose.
Oui.
Tout est fait comme ça. Excusez-moi, on l'a puni, Poutine. Ah oui, on l'a puni, oui, on le voit. On va passer un hiver formidable. Mais bon, voilà, quoi, je ne comprends pas. Oui. On n'a pas de main-d'œuvre actuellement formée pour remettre les centrales nucléaires qui sont en maintenance, arrêtées pour la maintenance.
Oui. Parce qu'on les mais a pas, Florence, Florence, les centrales nucléaires et Poutine, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, mais en revanche.
Moi, je fais une liaison, mais c'est pas grave.
Mais en revanche, Florence, vous avez entièrement raison de soulever le problème des centrales nucléaires en France. Vous avez entièrement raison de soulever le problème. Est-ce qu'il faut revenir sur ce texte de loi, oui ou non ? Eh bien, merci Florence, dans tous les cas, de soulever la question. Encore une fois, j'organiserai un débat vendredi entre 11h et midi sur cette question, sur le nucléaire, sur nos centrales nucléaires. Nous apprendrons beaucoup de choses parce que c'est essentiel, parce qu'elles vont être au cœur de notre réflexion dans les mois qui viennent. Merci Florence.
Bien sûr.
Merci beaucoup Florence. Alors, je me tourne donc comme prévu vers Mathieu Lassagne. Bonjour Mathieu Lassagne.
Bonjour Jean-Jacques.
Merci d'être avec nous. Vous présidez une start-up qui développe des centrales solaires et les parcs photovoltaïques. Alors d'abord, sur cette loi, cette fameuse loi qui prévoit la fermeture de centrales nucléaires, faut-il revenir sur cette loi ?
Tout à fait. Enfin, moi, je pense que c'est la première question à se poser. Je pense qu'il faut faire un peu un mea culpa collectif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on nous a fait croire qu'on allait pouvoir fermer 12 centrales nucléaires et qu'on s'en porterait pas plus mal.
Bon, oui.
Quand on ferme 12 centrales, forcément, ça a des conséquences. Et j'ai pas entendu beaucoup de réactions à cette époque-là. Donc, finalement, on en a fermé deux. Il est toujours prévu d'en fermer d'autres. Je pense que c'est le moment de se poser des questions.
Donc, il est prévu de fermer 14 réacteurs nucléaires. Nous avons en France, je le rappelle, 56 réacteurs nucléaires. Il est prévu d'en fermer 14.
Voilà.
L'immédiat, évidemment, parce qu'on ne ferme pas un réacteur nucléaire comme ça, comme on ferme une porte. On est bien d'accord.
Et les constructions de centrales qui ont été annoncées seront mises en service au mieux en 2035.
Donc, au mieux en 2035.
Le remplacement arrivera au mieux en 2035. Donc
j'ai écouté, Mathieu Lassagne, je vous coupe, mais j'ai écouté le président d'EDF qui dit quelque chose de formidable. Il rappelait quoi ? Je crois que c'était lors de la réunion du MEDEF. Il rappelait quoi ? Il rappelait qu'ils avaient engagé à EDF des techniciens qui allaient les aider à fermer les centrales. Ils n'ont pas engagé de techniciens leur permettant de garder les centrales ouvertes. Alors, si on fait volte-face, il va falloir changer les choses. Il va falloir engager un autre personnel.
EDF est en train de recruter massivement des ingénieurs pour construire les nouvelles centrales, mais de toute façon, on le voit sur les EPR qui ont été construits, hein, même si c'était les premiers qui a eu des erreurs. Ça prend du temps de construire un EPR, c'est quelque chose de très complexe.
Mais évidemment. Alors, sur le prix de l'énergie, Mathieu Lassagne.
Voilà. Sur le prix de l'énergie, si je peux juste essayer de remettre un peu les choses en perspective.
Allez-y.
Les prix de l'électricité sur les marchés gros, donc c'est les bourses de l'électricité sur lesquelles s'approvisionnent finalement les fournisseurs.
Oui.
Il y a un an, ils étaient à 50 euros par mégawattheure. Ce n'est pas le prix payé par le client final, c'est le prix de gros.
Oui.
Aujourd'hui, pour l'année 2023, ils sont à 1000 euros par mégawattheure, fois 20.
De 50 euros, ils sont passés à 1000 euros.
À plus de 1000 euros. Alors, pour expliquer cette hausse, il y a des éléments concrets, matériels. Hein. Moindre disponibilité du parc nucléaire. Le parc nucléaire d'EDF vieillit, c'est normal. Ça se passe comme ça dans tous les pays dans lesquels il y a des réacteurs nucléaires. Des problèmes de pluviométrie. Hein. Il y a moins d'eau dans les fleuves, du coup c'est plus difficile de refroidir les centrales. Il y a moins d'eau dans les barrages, du coup il y a moins d'eau pour produire de l'électricité. Et puis les prix du gaz ont augmenté. Et un certain nombre de centrales en France utilisées l'hiver fonctionnent au gaz. Donc leur coût de fonctionnement a augmenté.
Oui.
Cela dit, passer de 20 à 1000, même en intégrant l'ensemble de ces éléments, ça ne se justifie pas. Et donc, dans ce prix qu'on observe aujourd'hui, il y a de la spéculation. Et c'est spéculation, pas dans le mauvais terme, mais c'est juste de l'incertitude. C'est-à-dire que ce prix complètement aberrant traduit surtout le fait que les gens ne savent pas ce qui va se passer. Voilà. Donc, il y a une première action à faire, ça a été fait en Espagne, ça a été fait dans d'autres pays, pour essayer de rassurer et de faire revenir les prix de l'électricité, les prix de gros, à des niveaux qui soient plus justifiés par des coûts plutôt que par des incertitudes. Alors, en Espagne, on est plutôt autour de 300 euros par mégawattheure, mais 300 par euros par mégawattheure, c'est trois fois moins que les 1000 qu'on a aujourd'hui,
oui. Voilà. Donc, Mathieu Lassagne, il est déjà 10h44, il faut que je fasse un peu de pub, hein, et puis on se retrouve derrière. Je vais aussi prendre en ligne Fabien Gay, qui est sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, qui travaille beaucoup sur ces questions d'énergie. Et puis, nous allons voir ce qui se passe en Grande-Bretagne, parce qu'en Grande-Bretagne, des milliers d'habitants menacent d'arrêter de payer leurs factures. Et en France, il y a des maires qui menacent d'arrêter de payer. Nous allons voir tout cela juste après cette pub. Vous êtes sur Sud Radio, vous appelez. Est-ce que vous êtes inquiet? Le prix d'électricité, le prix du gaz, 0826 300 300, est-ce que nous sommes menacés par des coupures? Nous parlons de cela ce matin sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Je vous redonne le numéro 0826 300 300. Je vous redonne ce numéro parce que vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez dans cette émission pendant ces deux heures. Vous pouvez intervenir sur tous les sujets d'actualité. Là, nous parlons de l'énergie, d'éventuelles coupures d'électricité, du prix de l'électricité, du prix du gaz, d'éventuelles coupures de gaz. Mais vous pouvez intervenir sur d'autres sujets. N'hésitez pas à m'appeler. Vous aimez cette émission, vous ne l'aimez pas. On va jouer franc jeu, je vous l'ai dit depuis lundi. Nous jouerons franc jeu ici entre 10h30 et midi et demi. 0826 300 300. L'électricité, donc, nous sommes toujours avec Mathieu Lassagne, qui est président de Z-Energy. C'est une start-up qui développe des centrales solaires et les parcs photovoltaïques. Alors, les prix d'électricité explosent aussi en Grande-Bretagne. J'en parlais tout à l'heure. Nous sommes avec vous, Félix Mathieu. Outre-Manche, des milliers d'habitants menacent même d'arrêter de payer leurs factures.
Oui, imaginez, les prix de l'énergie ont triplé sur 3 ans en Grande-Bretagne. Le régulateur britannique de l'énergie vient d'annoncer un relèvement de 80% des tarifs réglementés au 1er octobre. Ils avaient déjà bondi ces derniers mois avec une inflation qui dépasse les 10% du jamais vu depuis 40 ans en Grande-Bretagne. Conséquence, plus de 100 000 Britanniques ont déjà rejoint ce mouvement Don't Pay, ne pas payer, une sorte de désobéissance civile. Ils menacent d'arrêter de payer leurs factures dès le 1er octobre.
En France, ce sont des maires qui menacent d'arrêter de payer.
Oui, pas de tarifs réguliers pour les collectivités, contrairement aux particuliers. Les mairies sont soumises aux fluctuations du marché de gros. Le maire communiste de Montader, plus de 13 000 habitants dans l'Oise, menace donc d'arrêter de payer sa facture d'électricité. Elle est censée quadrupler, passer de 600 000 euros à 2,5 millions l'année prochaine. Et il explique tout simplement qu'il ne peut pas payer, sauf par exemple à faire des choix comme fermer la cantine scolaire ou bien l'accueil de la mairie.
Elisabeth Borne était l'invitée de Quotidien hier. Que disait-elle à propos d'éventuelles coupures? Écoutons-la.
Il peut y avoir des moments, s'il fait très froid, où on peut avoir effectivement un problème sur l'approvisionnement en électricité. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle des délestages tournants, c'est-à-dire qu'on coupe de façon tournante, par quartier, moins de 2 heures. Donc ça peut concerner effectivement, je vous dis, on fait tout pour éviter ces situations.
Ça pourrait arriver.
Mais ça peut arriver si toutes les mauvaises hypothèses se conjuguent.
Bien, Elisabeth Borne, c'était hier, donc qui n'exclut pas d'éventuelles coupures par quartier, 2 heures par jour. Nous verrons cela cet hiver, évidemment, au moment. Fabien Gay, vous êtes là ?
Vous allez bien ?
Oui, très très bien. Le maire communiste de Montater, 13 000 habitants dans l'Oise, qui ne veut plus payer. Fabien Gay, vous le comprenez ?
Ben, je le comprends, et d'autant plus que ça risque de se poser pour un certain nombre de collectivités, mais aussi pour des particuliers. On entendait en premier votre première auditrice.
Oui.
Si les prix augmentent, j'ai beaucoup de gens qui m'alertent d'une augmentation dès le 1er septembre de 70% de leur contrat. On peut se retrouver avec des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent plus payer leurs factures. Et Jean-Jacques Bourdin, il faut déjà le dire, c'est déjà le cas. Il y a 12 millions de Françaises et de Français qui sont en situation de précarité énergétique.
Oui.
Et qui, aujourd'hui, déjà, coupent leur chauffage ou n'utilisent pas l'électricité toute la journée parce qu'ils ne peuvent pas payer à la fin. Nous sommes déjà dans cette situation. Et malheureusement, avec l'emballement du marché de l'électricité, cela pourrait faire encore plus de personnes.
Oui, Fabien Gay, je viens de voir à l'instant, c'est une dépêche qui vient de tomber, Marine Le Pen demande une session extraordinaire du Parlement consacrée à l'énergie. C'est bien ou pas ?
Mais nous, nous l'avons demandé aussi, les parlementaires communistes, un oui. débat sur la question énergétique. Parce que, oui. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, vous êtes oui. un journaliste attentif aux questions parlementaires.
Bien
nous
sûr.
Avons eu un débat sur le pouvoir d'achat et notamment sur les questions énergétiques. Sauf qu'on prend toujours le débat petit bout par petit bout. On a traité la question de la réouverture des centrales à charbon et d'un terminal méthanier au Havre. Puis ensuite, à la rentrée, on devrait avoir un débat sur les énergies renouvelables. Puis peut-être un jour un débat sur la question du nucléaire. Nous, ce que nous demandons, les parlementaires communistes, c'est un débat général sur la situation globale, parce qu'il faut un mix énergétique, il faudra du nucléaire, mais aussi le développement des énergies renouvelables dans l'avenir pour sécuriser l'approvisionnement de l'ensemble de la France, des particuliers, de nos entreprises et des collectivités. Et un débat global avec un vote, parce qu'il faut arrêter de découper question par question, parce qu'on voit bien qu'on oui. ne peut pas avoir d'un côté le nucléaire, de l'autre les énergies renouvelables et tant d'autres choses. Tout ça
bien
est sûr. Interconnecté.
Mais bien
donc
sûr.
Il nous faut un débat global.
Bon, et vous demandez vous aussi donc un débat global au Parlement. Il y a un Conseil de défense demain consacré à l'énergie qui sera organisé, pas demain, c'est vendredi, autour du président de la République, mais parallèlement, vous dites très bien, Conseil de défense, mais Conseil de défense, on ne sait rien de ce qui se décide, c'est le président de la République qui décide, nous, on veut aussi un débat au Parlement, une session extraordinaire, Marine Le Pen fait la même demande que vous, eh bien nous allons voir si elle est reçue ou pas, de toute façon, le débat est ouvert sur l'antenne de Sud Radio. Mathieu Lassagne, quelle solution, aujourd'hui, devant cette urgence énergétique?
Je crois, Jean-Jacques, que vous avez la réponse. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel moyen de production d'énergie, on a besoin d'énergie, on a besoin d'électricité, quel moyen de production d'électricité peut être mis en œuvre rapidement, et quand il s'agit de rapidement, oui. c'est dans 6 à 12 mois. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution et que ce moyen s'appelle l'énergie solaire. L'énergie
oui.
solaire,
oui, mais enfin, l'énergie solaire, on est bien d'accord.
C'est compétitif oui. En termes de prix. Les prix de l'électricité solaire sont stables pendant 40 ans. On n'a pas de mauvaise surprise, on n'a pas de hausse de x3, x4, x20. Et surtout, c'est un moyen de production qui est vert. Donc, à nos yeux, et c'est pour ça que je fais ce métier et que je développe des centrales solaires, c'est un moyen qui a aujourd'hui toutes les clés pour apporter une solution d'urgence à la
oui,
fois au pouvoir
Mathieu
d'achat.
Mathieu Lassagne, mais l'énergie solaire, très bien, évidemment, il faut développer absolument l'énergie solaire. Néanmoins, il y a une urgence. Et l'énergie solaire, pour on va installer des panneaux photovoltaïques, oui, de plus en plus, mais enfin, on ne résout pas l'urgence.
Aujourd'hui, sont en attente de construction près de l'équipe, enfin, de la production équivalente de 2 centrales nucléaires.
Il faut combien de temps pour construire un champ de panneaux?
Ça dépend de sa taille. Il faut 6 mois. Ce qui est aujourd'hui très long, c'est les procédures administratives qui peuvent prendre jusqu'à 5 ans. Et c'est un sujet auquel le gouvernement est en train de s'attaquer. Si on décide, par mesure d'urgence, d'alléger cette procédure administrative, de solariser l'ensemble des toitures, le fonds vert qui a été annoncé par la Première ministre pourrait permettre de solariser l'ensemble des bâtiments municipaux, ça permet finalement aux collectivités locales de produire leur propre électricité, de revenir maître de leur destin énergétique et de ne pas dépendre de fournisseurs ayant des stratégies de prix discutables.
Mathieu Lassagne, avec des panneaux qui sont fabriqués où ?
Aujourd'hui, l'essentiel de la production est asiatique. Mais qu'en est-il de la fabrication des composants essentiels des centrales nucléaires ?
Oui.
C'est à peu près la même chose aujourd'hui.
Oui, mais ce n'est pas une raison. Je dis toujours que les comparaisons ne servent à rien. Moi, je suis contre les comparaisons. Ce n'est pas une raison, c'est pas parce que, effectivement, vous avez raison. Mais, Mathieu Lassagne, on est loin d'une production européenne de panneaux solaires.
C'est un sujet auquel la filière est en train de s'atteler. Il y a aujourd'hui, de même qu'il y a des gigafactories de batteries pour équiper les véhicules électriques, il y a plusieurs projets d'installation de gigafactories de modules solaires, tout simplement parce que c'est effectivement un point qui a... c'est une dépendance qui est aujourd'hui de moins en moins acceptable et de moins en moins raisonnable. Vous avez raison.
Merci Mathieu Lassagne, merci beaucoup Fabien Guy, merci. J'ai pas le temps malheureusement, on est débordé, mais je suis débordé par les auditeurs qui appellent 0826 300 300. Ces questions d'énergie seront les questions qui vont animer tous les débats ça je vous le dis, vous allez voir, tous les débats à l'automne et cet hiver. Ces questions d'énergie, déjà, c'est parti fort. Hein. Vous voyez, les groupes politiques importants, Marine Le Pen, les communistes qui demandent des réunions d'urgence et des débats urgents au Parlement. Vous avez le président de la République qui organise ce conseil de défense vendredi. Nous avons Dominique en ligne, mais je n'ai pas le temps de prendre Dominique en ligne, mais je promets que je prendrai Dominique juste après les infos, à 11h. Dominique qui nous appelle de Grande-Bretagne. Gros souci en Grande-Bretagne, et évidemment les citoyens se rebellent. Les citoyens se rebellent et ne veulent plus payer leurs factures. Ça confirme ce que nous disions tout à l'heure. Il est 10h58, vous êtes sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, nous allons parler de l'école. L'école au sens large, l'école, le collège, le lycée, puisque c'est la rentrée des enseignants aujourd'hui. Ce sera la rentrée des élèves dans les jours qui viennent, selon les établissements évidemment. Nous allons parler de l'école, vous allez voir, cette heure va être formidable. Vous réagissez. C'est une question que je pose ce matin. L'école française, d'abord, va-t-elle si mal que cela, oui ou non? Nous allons parler avec nos invités. Et puis, faut-il octroyer une plus grande autonomie aux écoles et établissements publics? C'est la question que nous posons. Vous allez réagir, 0826-300-300. Mais avant d'ouvrir ce dossier école, j'ai promis, et je tiens la promesse, j'ai promis de donner la parole à Dominique, qui nous appelle d'Oxford. Ah, Oxford, une ville où l'on enseigne. D'ailleurs, Dominique, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant?
Non, je suis psychologue.
Vous êtes psychologue à Oxford, en Grande-Bretagne.
Oui, en Angleterre en général.
En Angleterre en général. Dominique, nous parlions du coût de l'énergie tout à l'heure, du coût de l'électricité. Nous disions qu'en Grande-Bretagne, il y a un mouvement qui est en train de naître. Les citoyens commencent à refuser de payer leurs factures. Vous confirmez, Dominique ?
Oui, je suis en train de me renseigner pour rentrer dans le mouvement. Hein, en tant que Français, je sais, j'ai un petit accent anglais de temps en temps, mais je suis Français. Mais ça me fait plaisir de voir que les Anglais... De toute façon, c'est très, 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 très grave ce qui se passe, parce que quand les Anglais commencent à se révolter, croyez-moi, c'est pas pour rien. Je voudrais aussi dire que, vite fait, entre oui. parenthèses, que... Il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux qu'en France. Par exemple, la sécurité, la police est très bonne. Les prisons sont très très bonnes aussi. Et les délinquants se tiennent à carreau. Bien qu'il y a beaucoup de criminalité quand même, mais quand même, par rapport à la France, oui. Moi je trouve que l'Angleterre est beaucoup plus munie.
Muni. Bon, sur le problème de la sécurité, mais il y a d'autres sujets qui suscitent des débats en Grande-Bretagne. Hein, le coût de la vie qui augmente d'une manière vertigineuse, beaucoup plus l'inflation, beaucoup plus forte qu'en France, Dominique. Et puis, il y a cette histoire d'énergie, mais ça, nous sommes tous confrontés au même problème, le coût de l'énergie. Donc, il y a des citoyens britanniques qui refusent de payer leurs factures. Vous allez refuser de payer votre facture.
Ah oui, moi je vais refuser de payer mes factures parce que j'ai deux entreprises et je vois pas comment je vais faire face à tout ça. J'ai de la chance, je suis quand même assez privilégié. Bon. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pauvres en Angleterre aussi et qui peuvent plus. Ils peuvent plus travailler. Là, c'est plus possible.
Bien. Merci Dominique de nous avoir appelé. 0826-300-300. Attention. Attention, c'est un mouvement qui pourrait être suivi en France et qui pourrait prendre en France. On a connu les Gilets jaunes, c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. C'est un mouvement devant le coût de l'énergie. Je le dis ce matin sur l'antenne de Suradio, nous verrons si je me trompe ou pas, mais je sens peut-être pas mal les choses, je sens que c'est un mouvement qui peut prendre en France. Bien, nous allons parler de l'école avec nos invités en studio. Monique Cantos-Perber, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, ancienne directrice de l'école normale supérieure, auteur de « Une école qui peut mieux faire » aux éditions Albin Michel. Autre invité, Philippe Vatrolo. Bonjour Philippe Vatrolo.
Bonjour.
Merci d'être là. Ancien professeur de français agrégé en sciences économiques et sociales, formateur à l'Institut National Supérieur du Professorat, auteur de « Je suis un pédagogiste, gommer les clichés, construire une meilleure école ». Il y a un cliché. D'abord, est-ce un cliché qui est répété ici ou là ? Nous entendons sans cesse dire « l'école française va mal, c'est une catastrophe ». Est-ce que l'école française va mal, Monique Cantot-Sperber ? Est-ce qu'elle va mal ?
J'ai envie de vous répondre avec le titre de mon livre. Elle peut mieux faire, en tout cas.
Elle peut mieux faire.
Parce que l'ambition est incroyable. C'est une école gratuite, laïque, obligatoire. Tous nos gouvernants ont une très forte ambition pour l'école. Tous ceux qui se sont retrouvés ministres de l'Éducation nationale, et aujourd'hui même le président de la République, s'engagent dans des réformes scolaires, des réformes d'envergure. Donc tout ça, c'est formidable. Ça montre un véritable entraînement de la société.
Bon, elle peut aller mieux, mais est-ce qu'elle va mal, le constat ?
Les résultats sont là. Les enquêtes PISA, dans le cadre de l'OCDE, les enquêtes EURIDIS, dans le cadre de l'Union européenne, montrent toutes le même résultat. Une dégradation des performances en compréhension de l'écrit, en culture scientifique, en mathématiques et surtout, l'école française a le triste privilège d'être parmi les plus inégalitaires d'Europe. C'est-à-dire qu'elle permet la réussite d'un petit nombre d'enfants, petit pourcentage d'enfants, le plus souvent issus de milieux très favorisés, socialement et culturellement, et elle n'assure plus la réussite des enfants issus de milieux défavorisés. Et ça, pour un pays de tradition républicaine, c'est inadmissible.
C'est inadmissible et inacceptable. Inadmissible et inacceptable. Philippe Vatrelot, est-ce que vous avez le
Oui, on va partager...
Vous faites le même constat.
On va partager le même constat. Je vais reprendre les mots de Pape Ndiaye à propos de la rentrée et qui peuvent s'appliquer finalement avec cet euphémisme. La situation n'est pas optimale.
Oui.
On peut le dire comme ça.
Oui, ça c'est un euphémisme.
Oui.
Ça veut dire qu'elle est inquiétante.
C'est clair que de toute façon, il y a tout un courant qui existe depuis 30, 40 ans sur le déclin de l'école, etc. Il y a des succès de librairie qui se font là-dessus. Mais plus sérieusement, moi ce qui me semble important, c'est en effet ce que pointe Monique Cantot-Sperber, et là je la rejoins entièrement. Notre école, elle est celle du grand écart, hein, pour reprendre le titre d'un livre de Baudelot et Establet. Et donc, c'est une école qui est bonne pour les bons, mais mauvaise pour les moins bons, et avec des écarts qui se creusent. Et ça, c'est la vraie grosse difficulté, le vrai enjeu pour les années qui viennent. Si on a une école, juste un dernier mot là-dessus, si on a une école qui fonctionne mal, eh ben, finalement... y a un vrai risque d'implosion sociale. Vous évoquiez tout à l'heure la crise énergétique, mais il y a aussi une crise sociale qui peut naître d'une promesse républicaine non tenue. Si l'école ne fait que renforcer, voire amplifier les inégalités, ça aussi c'est un ferment de révolte.
Évidemment, ferment de révolte. Bien, nous aurons d'autres invités tout à l'heure, tout au long de l'émission. Puisque l'école n'est pas en très bonne santé... l'école française, il y a peut-être des solutions. Et il y a un débat qui est ouvert, le président de la République a relancé ce débat, il y a un débat qui est ouvert autour de l'autonomie donnée aux écoles, aux établissements publics, aux écoles, aux collèges et aux lycées. Volontairement, j'inclus les écoles. Hein. Aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées, faut-il octroyer une plus grande autonomie à ces établissements ? Oui ou non ? Monique Cantot-Sperber, j'ai lu votre livre, l'école peut mieux faire, elle peut mieux faire comment ? Eh bien en lui accordant une plus grande autonomie.
En tout cas, c'est une solution possible et qui est à tester, qui a expérimenté. En sa faveur, plaide d'abord la longue histoire de la construction de l'éducation nationale française, où dès 1880, les premiers ministres de l'instruction publique insistaient sur le fait qu'il fallait donner l'initiative aux enseignants, qu'il fallait respecter, comme ils disaient, la personnalité des établissements scolaires, leur identité.
Oui.
Donc ce sont des mots dont on aimerait qu'ils commencent à avoir un peu d'impact aujourd'hui. Ils ont été prononcés il y a presque un siècle et demi. Mais par ailleurs, plaide en la faveur de l'autonomie un certain nombre d'exemples étrangers. Alors, en Suède,
donnez-nous quelques exemples.
Dans les années 90, ont été créés ce qu'on appelait les free schools, c'est-à-dire on est passé du jour au lendemain, si je puis dire, quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, d'un système qui était totalement contrôlé par l'État, où l'éducation privée n'existait pas, puisqu'il n'y avait quasi pas d'école privée en Suède, c'est tout à fait extraordinaire, mais c'était le cas, à un système où l'autonomie scolaire devenait la règle. En tout cas, on incitait les établissements à se transformer, on créait de nouveaux types d'établissements complètement autonomes, publics, c'est-à-dire qui ne faisaient pas payer de frais de scolarité et qui ne choisissaient pas leurs élèves, puisque c'est ce qui caractérise l'offre publique en matière d'éducation, hein, oui. Contrairement à l'offre privée. Le malheur a été que cette réforme d'envergure a été en partie improvisée et surtout elle a ouvert la porte à des acteurs privés lucratifs, c'est-à-dire grandes entreprises
de formation
qui ont commencé à gérer des écoles. Oui, mais ça, il suffit de l'interdire parce que les autres exemples qui ont eu lieu avec les charter schools américaines, oui. C'est-à-dire des écoles publiques qui étaient destinées à permettre la réussite scolaire des enfants les plus défavorisés, oui. Et de résoudre des problèmes sociaux considérables en termes de mobilité sociale, d'employabilité, de dynamisme économique, hein, parce que le dynamisme économique n'est plombé par les inégalités qui s'originent dans les inégalités scolaires. Eh bien, les charter schools ont été des écoles au public autonomes, mais qui étaient gérées soit par des groupes d'enseignants, qui avaient un projet pédagogique ambitieux de réussite des élèves, soit par des associations de parents, qui avaient elles aussi un projet pédagogique ambitieux, soit par des ONG, des fondations, enfin du non-profit. Et plus récemment en Angleterre, quand les libéraux, la coalition Lib Dem, libéraux-démocrates et conservateurs est arrivée au pouvoir avec Cameron, dans les années 2010, des écoles libres et publiques, hein, parce que quand on dit école libre, on pense aussi au privé en France, hein, oui. Écoles libres publiques ont été créées en Angleterre.
Bah, et ça marche ?
Et avec des résultats qui ont été quand même très positifs.
Est-ce que les résultats
encore
sont bons ?
Encore une fois, il n'y a pas de formule unique. Il faut faire. Maintenant, on a quand même 30 ans de recul. On a beaucoup documenté les choses, on sait quels sont les risques, on sait quels sont les points sur lesquels il faut extrêmement
vigilant.
Alors,
nous allons entrer dans le détail,
justement. Nous sommes dans une bonne situation pour expérimenter ça comme une solution possible, parce qu'apparemment, aujourd'hui, aucune autre solution qui puisse tenir la route n'est proposée. Donc, ça doit être essayé.
Donc, c'est une solution, mais quelle autonomie ? Ça, c'est l'une des questions que nous développerons. Autonomie, est-ce qu'il faut commencer à ouvrir la porte à l'autonomie, Philippe Vatrolot.
Alors, moi, c'est ce que j'ai essayé de dire, d'ailleurs, dans mon livre. Je crois qu'il y a une quantité de mots qui sont piégés dans le débat sur l'école. Alors, autonomie en fait partie, projet aussi, innovation également, sont des mots piégés et qui peuvent
Mais piégés
être...
pourquoi ? Ça fait peur à qui ?
Déjà, ça fait peur.
Non, mais disons clairement les choses, ça fait peur à
bien
qui ?
Bien sûr, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Évidemment, ça fait peur. Et puis, parce que derrière, il y a évidemment la perversion des termes. La notion d'autonomie, elle peut sembler très positive, mais j'essaierai aussi, dans le débat, de montrer les limites et les craintes qu'il peut y avoir. Personnellement, à titre purement personnel, moi, je suis pas défavorable à une certaine autonomie, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement le cadre dans lequel ça se construit.
Oui.
Tout à l'heure, Monique Cantos-Perber parlait de réformes qui se font du jour au lendemain. Je crois que ce qui est le plus important, et à tous égards, dans l'école, c'est de se donner du temps. Et c'est le temps qui est la condition.
Est-ce que nous avons le temps ? Est-ce que nous avons le temps ?
Oui,
avons le temps.
Non, mais vous connaissez la formule. Oui. Seul, on avance vite, plus vite, mais à plusieurs, on avance plus loin.
Oui. Hein.
Je crois que ça devrait... Et c'est d'ailleurs peut-être cette phrase qu'aurait dû méditer le précédent ministre Jean-Michel Blanquer. Ce que développe Monique Cantos-Perber, ça peut être un élément parmi d'autres, on voit que c'est effectivement elle est porteuse d'un projet qui ressemble beaucoup
alors,
à celui
de
Emmanuel Macron. Hein, c'est un projet libéral.
Nous allons être concrets. Attendez. Nous allons être concrets sur l'autonomie. Que veut dire l'autonomie ? Concrètement, comment on peut installer un début d'autonomie dans nos établissements scolaires ? Quelles conséquences pour les enseignants, pour les élèves, pour les parents ?
Juste un mot.
Oui.
Dans le débat sur l'école aussi, il y a une constante, c'est que souvent on réinvente des choses qui existent déjà. L'autonomie, elle est déjà présente, les indemnités, les primes, etc., ça existe déjà. Donc, on réinvente souvent des choses qui existent déjà.
Est-ce que grâce à l'autonomie, on va mieux enseigner ? Est-ce que les élèves vont être plus indépendants ? Est-ce qu'on va lutter contre les inégalités ? Est-ce qu'on va pouvoir mieux payer les enseignants ? Est-ce que ce sont toutes les questions qui sont posées à travers... Monique Cantos-Perber, il faut que je fasse un peu de pub. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la parole. Tout tout à l'heure, j'aurai Patrice Romain, qui est professeur d'école, principal de collège, directeur d'école pendant 20 ans, auteur de mots d'excuses, des parents écrivent toujours aux enseignants. Et puis, quelqu'un qui est absolument contre l'autonomie, c'est Laurent Frageman, qui est professeur agrégé d'histoire au lycée Lamartine, chercheur associé au service de l'université de Paris-Cité. Lui, il est absolument contre toute autonomie. Et vous réagissez au 0826-300-300. Je vois Eric, je vois Lionel qui sont déjà là. Vous êtes sur Sud Radio, le débat est lancé, 11h17.
Sud Radio, parlons vrai, chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h20. Donner plus d'autonomie aux établissements scolaires, est-ce la solution pour relever le niveau de l'enseignement en France? Enseignement primaire et enseignement secondaire. Nos invités donc, Monique Cantos-Perber, qui est directrice de recherche au CNRS, et qui publie Une école qui peut mieux faire aux éditions Albin Michel, et notre invité aussi, Philippe Vatrelot, qui est formateur à l'Institut National Supérieur du Professorat, auteur de « Je suis un pédagogiste, gommer les clichés, construire une meilleure école ». Donc, autonomie. Le mot est lâché, il a été lâché. Vous le disiez, on en parle depuis plusieurs années. Mais là, j'ai l'impression que le président de la République a l'intention d'accélérer les choses. Nous verrons bien s'il y a accélération. Autonomie, concrètement, ça veut dire quoi ? Quelles conséquences pour les parents, les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement ?
Alors, autonomie, ce n'est pas indépendance.
Ah,
c'est-à-dire, un établissement autonome, comme le sont les universités aujourd'hui, depuis la loi de 2007, et comme le sont d'autres établissements, certains autres établissements publics, c'est la capacité de se fixer des objectifs et de définir en toute autonomie, c'est là que ça joue, une stratégie de moyens pour y parvenir. Il est évident que les objectifs en matière d'éducation primaire et secondaire sont des objectifs qui sont fixés par la puissance publique, qui définit le curriculum, qui définit ce que les élèves doivent savoir au terme des principaux cycles. En revanche, et là c'est pour tout le monde pareil, dans une école du 6e arrondissement et dans une école de la banlieue de Lille. En revanche, si l'État doit définir les buts et les objectifs ambitieux, il n'est pas nécessairement justifié qu'ils définissent la stratégie des moyens pour y parvenir. Et l'autonomie porte sur cela. Une stratégie des moyens qui est justifiée par l'équipe enseignante concernée, l'établissement concerné, en fonction du terrain. Parce que voyez-vous, dans notre pays, on a tendance à considérer que si on fait partout pareil, c'est l'égalité assurée. Ce n'est pas le cas.
Oui, il y a cette uniformité dans l'éducation en France qui vous paraît nocive. C'est-à-dire que tous les élèves apprennent la même chose au même moment, quel que soit le niveau de l'élève. C'est vrai ou c'est faux ?
Non, alors, ce n'est plus le cas.
Faut pas exagérer.
Au milieu du 19e siècle, Hippolyte Taine, un essayiste, se moquait d'un ministre de l'Instruction publique qui disait l'éducation et l'instruction publique, c'est extraordinaire. Au même moment, dans les mêmes classes de France, tous les élèves étudient la même phrase de Virgile.
C'est ce que j'appelais le syndrome Jules Ferry dans mon livre, savoir que tous les élèves font la même chose. Non, mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que des projets d'écoles, des projets d'établissement. Rappelons que les écoles, ce ne sont pas des établissements publics au sens strict. Les projets d'école, les projets d'établissement, il y a même des projets académiques. Tout cela, ça existe déjà. Il y a déjà aussi...
Oui, mais
dans
on pourrait aller plus loin. Philippe Vatrelot,
ça n'a jamais été appliqué. C'est extraordinaire. La loi confiante. Mais bien sûr, c'est appliqué, mais à la marge, jamais avec un engagement véritable de la puissance publique, jamais avec des moyens assortis. Et regardez, on en est aujourd'hui à parler d'autonomie, comme si ces expressions, qui existent, le terme autonomie figure dans la loi de 2005, la loi de François Fillon.
Oui.
Mais ce n'est pas, ça reste un petit peu décoratif. Et ce que propose le président de la République et le ministre actuel,
c'est presque insultant pour les enseignants qui mettent en œuvre ces projets.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui
pour l'ensemble des personnels de direction Je trouve pas ça correct. Et
Attendez, vous pouvez peut-être me permettre de préciser avant de critiquer.
Je termine juste la phrase. Philippe Vatrelot termine. Vous allez réagir et j'ai des questions à poser. Allez-y, Philippe Vatrelot.
Je disais simplement une chose. chose. C'est que là, on retrouve un petit peu le même défaut que celui qui s'est révélé lors de du discours d'Emmanuel Macron devant les recteurs, où il semblait découvrir l'existence de projets. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, on redécouvre des choses qui existent déjà.
Oui.
Donc, il suffirait peut-être de... Alors là, on peut être d'accord là-dessus et se rejoindre, de mieux faire appliquer les textes, le cadre actuel, plutôt que
Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce qu'une meilleure autonomie permettrait de mieux impliquer les parents d'élèves? Est-ce que ça permettrait, par exemple, de nouer des partenariats avec des associations pour aider les élèves défavorisés? Est-ce que l'autonomie, faudrait-il aller jusqu'au recrutement des professeurs? Est-ce que ça permettrait de mieux répartir les enseignements? Est-ce que ça permettrait, je ne sais pas, moi... d'améliorer les traitements des enseignants, je ne sais pas.
L'autonomie, oui. C'est essentiellement, dans notre cadre républicain, où l'école quand même, est financée intégralement par l'État,
oui.
et où est intégralement publique et laïque, c'est l'autonomie pédagogique et l'autonomie de gestion, c'est-à-dire maîtrise du budget, en particulier plus de souplesse
c'est-à-dire
dans la
financement. C'est-à-dire que le chef d'établissement maîtriserait son budget, mais c'est déjà le cas, d'une certaine manière,
c'est déjà le cas, avec des possibilités éventuellement de souplesse accrue et surtout autonomie de gestion des ressources humaines. Je suis en effet très favorable à la possibilité pour les équipes enseignantes et l'établissement d'être souverain, sinon décisionnaire, dans le recrutement de leurs collègues. Alors, je reviens sur un mot, si vous voulez.
Je vais y revenir sur le recrutement des enseignants.
L'autonomie, c'est l'autonomie à partir d'un contrat. Il ne s'agit pas, comme c'est le cas en effet, dans la loi de 2005, le terme est cité, et même dans la loi qui précède celles qui suivent le terme de projet d'établissement, là c'est beaucoup plus ambitieux. Il s'agit d'un contrat qui est justifié par les enseignants, qui est discuté avec la puissance publique et les collectivités territoriales, qui est surtout justifié en fonction du terrain. D'ailleurs, je suggère même que les enseignants puissent faire appel à des chercheurs qui font une étude du terrain et qui permettent aux enseignants de construire leur argument pour montrer comment c'est justifié, qu'étant donné ce terrain-là, c'est la stratégie qu'il faut pour faire réussir les élèves. Ça, c'est absolument essentiel. Rien de tel n'existe aujourd'hui. Donc ça, c'est une différence majeure et qui donne beaucoup plus de souplesse en termes de stratégie pédagogique. Mélanger des groupes de niveau, faire des élèves de 6, des groupes de 6 pour certains enseignements particulièrement difficiles et des groupes de 24. Quand on lit une histoire à une classe...
Mais ça existe, groupes de niveau, ça existe
non,
ou pas,
on
pas suffisamment
on ne peut pas mélanger les niveaux, comme c'est le cas dans certaines pédagogies qui sont d'ailleurs à titre exceptionnel tolérées dans l'école publique aujourd'hui. Mais par exemple, on demande vous savez qu'on a la réduction du nombre d'élèves par classe, donc un programme sur 3 ans, 20% aujourd'hui qui ont déjà bénéficié de mesures, mais 12 élèves par classe, très bien, mais pour des apprentissages très difficiles, il faudrait plutôt 6 élèves. En revanche, quand on lit une histoire aux enfants, est-ce qu'on a besoin de 12? On peut être 24. Donc, si vous voyez, c'est aux enseignants de définir cela. Et parfois, deux professeurs, c'est plus efficace qu'un seul professeur. Donc, totale autonomie dans les stratégies pédagogiques, dans les modes d'évaluation. Mais
de l'école,
condition fondamentale de la réussite de l'autonomie, un contrôle vigilant de la puissance publique. Le principe, c'est responsabilité et contrôle vigilant avec sanction a posteriori.
Ça, c'est important. On ne peut pas laisser... autonomie, très bien, mais autonomie contrôlée, si je comprends bien.
C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer ce qu'est de l'ordre des stratégies, des moyens mis en œuvre. Mais moi, ce qui me semble plus essentiel, et je reviens au début de notre discussion, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités.
Oui.
À mon avis, les seuls projets qui vaillent sont ceux qui permettent vraiment de lutter contre les inégalités.
Mais organiser des groupes
de
travail...
Sinon, effectivement, Henri IV a un projet... L'école alsacienne a un projet, mais c'est pas un projet de réduction des inégalités.
On met à l'écart ces écoles-là qui sont des écoles
élitistes. L'impératif, il est là. Ce qui devrait guider l'évaluation de tous ces projets, c'est est-ce que ça permet de lutter contre les inégalités? Et ça passe aussi par d'autres éléments. C'est-à-dire que dans une aussi faible mixité sociale que c'est le cas aujourd'hui, vous aurez beau construire de l'autonomie et des projets, c'est mal parti. partie. Donc il y a un ensemble à considérer. Et par ailleurs, sur le recrutement des enseignants, juste une petite remarque au passage, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent dans la situation de pénurie dans laquelle nous sommes actuellement.
Alors justement, on va en parler après la pub, mais ça pose des questions. Est-ce que ça permet effectivement de lutter contre les inégalités, l'autonomie, une plus grande autonomie? Est-ce que ça permet de donner un meilleur avenir aux élèves? Est-ce que ça permet de rassurer les parents qui parfois sont inquiets? Et est-ce que ça permet de mieux payer aussi les enseignants? Une autonomie avec un établissement, un conseil pédagogique qui choisit ses enseignants. C'est toutes ces questions-là sont abordées ce matin sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. Je vais prendre Lionel dans un instant, et puis Patrice Romain qui sera avec nous dans quelques minutes, juste après la pub, 11h30.
Sud Radio, parlons vrai, chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
11h midi, confrontation d'idées tous les jours sur l'antenne de Sud Radio. Il est 11h33. L'autonomie des établissements scolaires, c'est un débat qui est ouvert, qui a encore une fois été ouvert par le président de la République, mais c'est un vieux débat. Lui, il a rebondi en fait sur ce débat. Patrice Romain est avec nous. Patrice Romain est professeur des écoles, principal de collège et directeur d'école pendant, a été principal de collège et directeur d'école pendant près de 20 ans. Bonjour Patrice Romain.
Bonjour.
Auteur de mots d'excuses, les parents écrivent toujours aux enseignants. Bien, nous parlons de l'autonomie et je voudrais que nous resserrions le débat. Est-ce que une meilleure autonomie donnée aux établissements scolaires permettrait de mieux lutter contre les inégalités?
Alors écoutez, moi j'aurais trois réflexions à formuler. Déjà, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique, c'est-à-dire que moi je suis favorable à l'expérimentation, à condition qu'ensuite il y ait un véritable bilan par un cabinet indépendant, parce que dans l'éducation nationale, les hauts fonctionnaires qui mettent des réformes en place sont les mêmes qui ensuite en tirent le bilan, donc on s'auto-congratule sans savoir. Mais donc je pense qu'on peut expérimenter. Bon. La deuxième remarque que je voudrais formuler, c'est il faut être prudent parce que les chefs d'établissement sont également recrutés donc sur profil, non pas sur l'ancienneté. Donc, et c'est un petit peu ce qu'on voudrait mettre en place pour les professeurs qui seraient recrutés par les chefs d'établissement. Et donc les chefs d'établissement, en 2022, qu'est-ce qu'ils font? C'est que lorsque ce sont des inspecteurs intègres, des hauts fonctionnaires intègres qui recrutent, tout va bien. Mais ce mode de recrutement, ça peut induire également la flagornerie, l'hypocrisie, le népotisme et la promotion canapé.
Oui.
Donc il faut être prudent. Et enfin, la troisième chose que je voudrais dire, c'est que ça, ce serpent de mer, c'est un véritable enfumage. Là, nous avons aujourd'hui la pré-rentrée des enseignants. Le réel problème de l'éducation nationale, c'est, à mon sens, moins l'autonomie ou le projet de ci, le projet de ça. Vous avez des dizaines de milliers de professeurs qui sont motivés et qui voudraient exercer leur métier sans être agressés, dans de bonnes conditions. Et comme il y a une omerta totale au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'à tous les échelons hiérarchiques, on masque les problèmes, eh bien, on n'a aucune conscience de la réalité sur le terrain. Donc on pourra toujours ensuite ergoter et allumer des contre-feux et porter des
débats. Pour vous, le fait de remettre sur le terrain, si je puis dire, le mot autonomie, c'est allumer un contre-feu.
Mais c'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas le problème essentiel.
C'est pas le problème.
Mais il y a effectivement déjà des projets. En plus, ce sont des mots, c'est-à-dire on parle d'autonomie dans les faits. L'autonomie des établissements existe, mais l'autonomie est tellement resserrée au niveau des moyens humains et matériels,
oui,
que finalement, ce n'est qu'un nom, un nom de plus.
Oui, mais Patrice Romain, si ça donne la possibilité, cette autonomie, une autonomie contrôlée, de lutter contre les inégalités et en même temps, de permettre aux enfants d'être plus épanouis et de mieux réussir, et à l'école d'être plus performante, c'est pas mal, non ?
Ah mais ça, chacun forgera son idée. Hein. Ce sera la 15e méthode différente pour aborder ça. Mais encore une fois, il faut se méfier de toutes ces grandes paroles et voir exactement ce qui se passe sur le terrain. Hein.
Bon. Monique Antosperber.
Moi, je signale quand même que, même si le président de la République en a parlé au mois de juin dernier, c'est une cause pour laquelle je milite depuis 25 ans, l'autonomie scolaire. J'ai publié un rapport dans Génération Libre au début du mois de juillet sur cette question. Par ailleurs, alors, je reviens à essentiel. Hein. L'inégalité, remédier aux inégalités, ce n'est pas en ces termes que je pose la question. L'autonomie comme moyen de faire réussir chaque élève le mieux que c'est possible, c'est-à-dire lui donner ce véritable atout de liberté qui lui permet de continuer sa scolarité dans les meilleures conditions en ayant un très bon niveau de formation. Pour moi, c'est ça l'objectif. L'autonomie, et en particulier le contrat, ce n'est pas une autonomie pour des buts éducatifs au rabais. Au contraire, il faut des objectifs très ambitieux pour une école ambitieuse. Aux enseignants de définir leur contrat, de le publier. Vous parlez de réassurer les parents. Je serais tout à fait favorable à ce que les parents aient connaissance du contrat de l'établissement, si vous voyez, qu'ils sachent de quoi il s'agit.
C'est-à-dire que je suis parent, mon élève est inscrit.
Et les élèves aussi.
Et mon élève est inscrit. Je sais, en début d'année scolaire, quels sont les objectifs de l'établissement. Mais c'est déjà un peu le cas, non ?
Non, à ma connaissance, les projets d'établissement ne sont pas rendus publics dans la communauté scolaire ou dans la communauté des parents, en tout cas, ils ne sont pas discutés.
Mais les parents sont de plus en plus intrus.
Et de manière plus volontaire, si vous voulez. Alors, oui. C'est une chose qui va peut-être choquer, mais enfin, si vous voulez, moi, mon but, c'est l'efficacité et que chaque enfant ait la meilleure éducation possible. Qu'il y ait au sein même de l'éducation publique et de l'offre publique d'éducation, donc, une certaine diversité de méthodes, oui. Je trouve que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas une seule façon de bien enseigner. On enseigne bien dans différents pays du monde avec des méthodes très différentes des nôtres. Donc, qu'il y a possibilité pour une école d'inciter, les objectifs étant les mêmes et l'ambition étant très forte, bien évidemment. Mais ça, une stratégie de moyens particulière et une autre école qui reste dans le cadre public traditionnel, une autre stratégie de moyens, après tout, c'est une très bonne chose. Parce que la pluralité encourage le perfectionnement collectif. Ça, j'en suis convaincue. Je reviens sur la question des enseignants. Si vous voulez, aujourd'hui, un enseignant arrive dans une école sans savoir à quoi il a affaire. Que l'enseignant ait la possibilité, tout en respectant le système le mouvement national, de se porter candidat à une école en fonction du projet pédagogique de l'école qui est publié, de ce fameux contrat, après tout, pourquoi pas, et que les enseignants de l'école en question aient leur possibilité, avec leur principal, avec leur directeur, de donner leur avis, de pouvoir recevoir ce candidat, pourquoi pas. Ça promet quand même une meilleure cohésion de l'équipe. L'autonomie, c'est une manière aussi de valoriser considérablement le rôle des enseignants qui peuvent être vraiment des initiateurs du projet, des leaders pédagogiques avec le directeur de l'école. À mon avis, c'est vraiment une manière de les positionner. Alors, ça va de soi avec le fait que ça doit être accompagné par une réforme globale des salaires. Mais ça, c'est indépendant conceptuellement de l'autonomie. Oui. Il faut des conditions favorables pour que ça réussisse. Salaire, possibilité d'être rémunéré pour des missions complémentaires. Insistant sur la qualité de la formation des enseignants et qualité de la formation des directeurs d'école. Formation continue. Vous savez que toutes les enquêtes PISA montrent que les enseignants français n'ont aucune formation continue, n'ont pas la possibilité d'assister à des séminaires, de rencontrer des collègues d'autres établissements où ils échangent de bonnes pratiques. Tout ça, c'est Or, ce genre de choses, c'est ce qui donne du prix à l'activité qu'on exerce, c'est extrêmement valorisant.
Donc une autonomie encadrée. Philippe Vatrelot ?
Alors, sur la question du recrutement des enseignants, etc., là, je laisse Laurent Fragerman répondre. Moi, ce que je voudrais dire avant toute chose, c'est qu'avant de penser l'école de demain, P-E-N-S-E-R, il faudrait déjà penser, P-A-N-S-E-R, l'école d'aujourd'hui.
Oui.
C'est un préalable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'école, si elle va mal, je reviens sur la question que vous posiez au tout début, c'est surtout parce qu'on est dans un tel état de désillusion, d'amertume, de crispation des enseignants, et c'est pas juste un état d'esprit, c'est simplement une déconsidération de leur métier, et qu'il faut déjà reconstruire la confiance. Alors, je veux bien entendre que cette confiance, et je l'ai écrit moi-même et à plusieurs reprises, que ce soit dans ce livre ou dans le rapport du Conseil national de l'innovation en 2017, je veux bien entendre que ça passe par une plus grande prise en compte des collectifs enseignants. Mais d'abord et avant tout, il faut mieux payer les enseignants. Et pas conditionner ça à des tâches nouvelles,
ça,
etc. Les enseignants font déjà plein de choses. Oui. Moi, je suis pour qu'on raisonne toute tâche comprise, TTC, toute tâche comprise. Oui. Et pas en rajoutant des choses. Les enseignants ne sont pas des chasseurs de primes. Donc, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus.
La priorité, après, c'est de mieux payer les enseignants.
Après, on peut
ouvrir toutes les réformes.
Pourquoi pas ? Dès l'instant où.
Mais est-ce que vous pensez que si l'on paie mieux les.
Négocier.
Oui, mais si l'on paie mieux les enseignants, est-ce qu'on luttera de manière contre verticale. La crise des vocations ?
Alors, juste un mot encore.
12%. Pardonnez-moi, juste je donne des chiffres. Oui. Hein, toutes les enquêtes montrent que le salaire des enseignants est 12% inférieur, moyenne très basse des pays européens, et 12% inférieur au salaire de personnes ayant la même qualification. Oui. De plus,
pour l'instant,
je vous signale que les enseignants
c'est
français.
1,1 fois le SMIC. Hein,
oui, c'est vrai.
Et c'est un bac plus 5, mais et c'est... avec 30% de moins que, en moyenne. Hein, parce que
pour
c'est
les jeunes
très
chercheurs, doctorants, ayant fait 10 ans d'études, c'est pareil.
Avec le même niveau de diplôme.
Et juste un élément qui pourrait intéresser nos auditeurs, c'est que les enseignants français sont les enseignants de tous les pays de l'OCDE qui ont le sentiment que leur métier est le plus dévalorisé socialement. Donc vous voyez quel état d'insatisfaction pour des personnes qui sont quand même au cœur de la mobilité sociale, au cœur de l'ambition
républicaine. Là, je vois qu'il y a unanimité. D'ailleurs, je vais en parler avec Patrice Romain juste après la pub et avec Laurent Fragerman qui est professeur, justement, agrégé d'histoire au lycée Lamartine à Paris. À tout de suite, 11h43.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Nos écoles, le constat est général, tout le monde est d'accord, il faut mieux payer les enseignants. Lionel.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Oui, bonjour Lionel, vous êtes à Grasse dans les Alpes-Maritimes, Lionel. Merci d'être avec nous, vous avez appelé le 0826 300 300, Lionel. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je crois que votre fille entre en première, hein, c'est cela?
Une de mes filles en première, l'autre à l'université cette année.
Oui.
Moi, je suis passé dans une émission il y a quelques années déjà sur les investissements en fait du privé dans l'école, dans l'université en général. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'argent. L'école, ça nous coûte actuellement, je crois que c'est 160 milliards, un truc comme ça, par an. Et quand on voit le résultat, très honnêtement, c'est quand même extrêmement décevant.
Mais alors, faire entrer le privé à l'école, Lionel, comment ?
En leur permettant d'avoir des projets directement liés à leurs besoins, tout simplement. En Allemagne, là, il y a Volkswagen, il est rentré il y a quelques années dans une université, il a mis je sais plus combien de centaines de millions pour former des ingénieurs spécifiquement pour sa société, et ça se passe très bien. Les jeunes qui sortent avec un bac plus 5 en événementiel et qui se retrouvent au SMIC parce que le marché est complètement saturé, c'est complètement débile.
Oui, mais Lionel, les liens entre... Les liens entre l'université et les grandes entreprises, ça existe aussi en France. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle de l'école. J'oublie l'université, Lionel. Mais comment faire entrer le privé dans les écoles ?
Eh ben, on a des politiques qui sont quand même à même de pouvoir les faire rentrer. Mais déjà, l'autonomie des professeurs, quand on voit un certain nombre de profs, moi je l'ai eu hein, pendant des années avec mes filles, qui ne sont là finalement que parce qu'on ne sait pas où les mettre. Et donc, parce que moi, elles sont dans le public, hein, donc j'ai bien vu le résultat. Mais en fait, on va créer quoi si on ne permet pas à ces professeurs qui ne font pas leur staff, parce qu'il faut l'appeler comme il faut l'appeler comme ça, soit ils sont tout le temps absents, soit et ils sont malgré tout ici. Le directeur d'établissement n'a pas pouvoir de le changer, n'a pas pouvoir de le foutre dehors, en fait. Hein,
donc plus d'autonomie, vous dites, il faut donc plus d'autonomie.
Donc beaucoup plus d'autonomie et les intéresser, entre guillemets, aux résultats de l'école. Parce que sinon, on va créer une école à deux vitesses où le privé, qui a beaucoup plus d'argent, va créer, en fait, des élèves bien mieux formés. Et si on veut que nos enfants aient une éducation, on va dire, extrêmement qualitative, on va être obligé de faire ça. Mais la justice, elle est où?
Merci Lionel. Faut faire attention hein, aux excès parce que le privé n'est pas toujours non plus exceptionnel. Le privé n'a pas toujours des résultats plus exceptionnels que le public.
Privé, surtout,
faut toujours mesurer.
Il faut distinguer le privé lucratif et le privé non lucratif.
Oui.
Le privé non lucratif, c'est-à-dire les associations, les fondations, parfois les fondations d'entreprises. Qu'elle puisse apporter de l'aide, donner des mécénats pour aider en particulier les enfants défavorisés aux écoles publiques, pourquoi pas. En revanche, le privé lucratif, je vois qu'il, dans toutes les expériences où un rôle lui a donné en matière éducative, ça a été une catastrophe pour deux raisons. D'abord, si vous voulez, quand même, le privé lucratif est là pour faire des profits, c'est sa raison d'être. Il ne va pas se mettre à faire de la philanthropie. À ce moment-là, on vit du privé non lucratif. Mais par ailleurs, la puissance publique n'a jamais joué son rôle de sanction. En Suède, où les organismes privés lucratifs ont eu la responsabilité de gérer des écoles publiques, bah, très naturellement, elles ont tout de suite essayé de faire des économies d'échelle. C'est tout à fait normal.
Évidemment.
Et donc, substituer du numérique, des professeurs moins formés, et ça a été pour finir indicateur. Il y a des délégations réussies d'activités de services publics à la puissance privée lucrative. Il y en a. Mais il faut qu'il y ait un cahier des charges extrêmement précis et que l'État exerce son rôle de contrôle.
Non,
il va de soi qu'on n'en est pas du tout là en France.
Laurent Frangerman.
Donc le privé lucratif, non. L'autonomie, ce n'est pas une privatisation de l'école. Je le dis haut et fort parce que souvent, on disqualifie cette mesure en disant que c'est le cas. Absolument pas. Il s'agit de l'autonomie des professeurs. C'est même pas l'autonomie du chef d'établissement. D'ailleurs, c'est l'autonomie de l'équipe enseignante et du directeur.
Laurent
Frangerman. Dans le système public.
Laurent, je vous sens passionné. Vous défendez votre point de vue. Laurent Frangerman, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous. Vous êtes totalement contre toute autonomie ?
Alors, non, mais je pense justement que dans ce qui vient d'être dit, on ne distingue pas deux types d'autonomie très différents. Il y en a un qui est l'autonomie des enseignants, des équipes pédagogiques, en lien évidemment avec un chef d'établissement qui doit dynamiser tout ça. Enfin,
oui.
Cette autonomie-là, elle me paraît souhaitable, mais elle est très difficile à réaliser, si on regarde concrètement, il ne faut pas être utopique. Et l'autonomie dont nous rebat les oreilles, dont nous parle bien trop souvent, c'est une autonomie managériale, où il s'agit en fait de donner le pouvoir au chef d'établissement. Justement, dans les faits, c'est cela. Donc, si on parle bien d'une autonomie où finalement c'est le chef d'établissement qui recrute, c'est le chef d'établissement qui pilote tout, je pense qu'on se fourvoie.
Pourquoi est-ce qu'on se fourvoie
là, sur ça, hein.
Alors, pourquoi on se fourvoie? D'abord parce que, et ça rejoint ce que vient de dire l'auditeur, parce que l'école n'est pas une entreprise, ce n'est pas son objectif, elle doit fonctionner différemment et assumer cette différence, c'est-à-dire un fonctionnement qui est basé sur des valeurs à transmettre, et un fonctionnement, voilà, elle a des objectifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des objectifs à remplir et qu'on ne doit pas...
Dire non plus qu'elle ne doit pas évoluer.
Exactement, tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous dis, une autonomie vraiment qui soit basée sur l'initiative des enseignants, qui libère l'initiative, ça je suis pour. Mais je ne pense pas justement qu'en disant finalement, voilà, les enseignants doivent appliquer, parce que c'est la grande mode internationale, hein, c'est notamment ce que préconise l'OCDE, c'est les enseignants doivent appliquer des recettes des pédagogiques inventées par d'autres et on va leur demander de rester dans ces créneaux-là.
Non.
Et l'autonomie, finalement, du coup, c'est, quand je parle d'autonomie de vraiment managériale, c'est que du coup, il n'y a plus d'initiative réelle demandée aux enseignants. On est dans une autre logique.
Oui, dans une autre logique.
Tu as totalement raison aussi. Si on applique les consignes données par d'autres, il n'y a plus d'autonomie. Autonomie, ça veut dire qu'on se donne à soi-même sa loi et qu'on définit soi-même sa stratégie. Donc, autonomie des enseignants. Je suis tout à fait d'accord. On a tendance à penser aujourd'hui, oui, l'autonomie, c'est très bien. Il y a un vrai patron, c'est le chef d'établissement. Et les autres sont soumis. C'est voué à l'échec. On est dans un milieu où il y a succès de ce type de démarche et il y a une véritable collégialité, respect mutuel et projet commun. Le chef d'établissement, c'est bien sûr le chef, c'est lui qui coordonne, mais il est primus inter pares, c'est-à-dire il construit la cohésion de son équipe, c'est sa première responsabilité.
Oui.
Ça, c'est fondamental.
Mais
d'ailleurs, en Suède,
est-ce qu'il doit, Laurent Frangerman,
un exemple concret, en Suède, on est même allé, folie totale, donner au chef d'établissement la possibilité de moduler les salaires des enseignants.
Oui.
Vous pensez bien qu'il
n'y
a aucun chef d'établissement qui n'a utilisé ce pouvoir.
Mais donner au chef d'établissement et à l'équipe pédagogique la possibilité de choisir ses enseignants, vous êtes pour ou contre, Laurent Frangerman ?
Alors, je suis clairement contre, parce que, d'abord, le primus inter pares, c'est ce qui est en train de disparaître dans l'enseignement primaire, hein, c'est l'expérimentation de Marseille de M. Macron, c'est-à-dire on veut donner un autre rôle au directeur, là où, justement, spécificité française, on était dans un rôle compliqué, mais qui était assez intéressant, instructif, du directeur, un professeur des écoles comme les autres, et en même temps, animateur, coordinateur et impulseur. Votre question, c'était sur quoi ? Excusez-moi.
Non, ma question était simple, sur le chef d'établissement, l'équipe pédagogique qui choisit les enseignants de l'établissement.
Non, je ne suis pas pour, parce que le problème, c'est le marché scolaire. Et là, on est vraiment sur quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que si on introduit ça, on a l'exemple encore anglo-saxon, c'est la grande tradition anglo-saxonne, où effectivement l'enseignant est choisi localement, et le résultat, c'est que les enseignants qui sont capables de bien se vendre, qui sont les meilleurs, hein, parce que quelquefois, on fait bonne apparence, mais on n'est pas le meilleur, ceux-là vont dans les établissements cotés, et dans les établissements difficiles, bah, parmi, comme par hasard, on a les gens qui
mais
arrivent
Laurent
en bout de
queue. Ça permettrait, si a priori, on décide de mieux payer les enseignants. Première règle de base. On paye mieux les enseignants. Ça, et si on leur donne la possibilité aux chefs d'établissement et à l'équipe pédagogique d'établir un cadre, en quelque sorte, on va peut-être attirer plus de candidats, non ?
Alors, on attirera plus de candidats à Henri IV, Fénelon ou d'autres établissements bien cotés, ça c'est évident. Il n'y aura pas besoin d'ailleurs de même de les augmenter. Par contre, dans un lycée au fond de la Seine-Saint-Denis, mal desservi par les transports en commun, etc., et avec des grandes difficultés sociales, je vous garantis qu'il y en aura moins.
Eh bien, on les paye plus s'ils vont exercer en Seine-Saint-Denis, non ?
Il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'école, l'éducation nationale, c'est un service public. Et un service public, ça suppose qu'il soit le même dans l'ensemble du territoire. Il faut déjà rappeler ça.
Dans ses objectifs, mais peut-être pas dans ses méthodes et ses stratégies pédagogiques.
Pour l'instant, restons sur cet aspect-là.
C'est essentiel.
Alors, ça veut dire qu'il faut aussi éviter de creuser encore les inégalités aussi bien géographique que sociale.
Mais mon cher ami, elles sont évidentes. Elles ne cessent de s'aggraver. L'école française est de plus en plus inégalitaire. La situation se détériore et il faut surtout ne rien changer.
Je dis qu'il ne faut pas aggraver encore plus le risque, effectivement, de ce débat sur l'autonomie, c'est qu'il se fasse vers plus de concurrence entre les établissements et finalement une remise en question aussi du service public.
Vous ne mettrez pas d'accord.
Mais le dernier point que je voudrais dire rapidement, surtout et avant tout se donner du temps. Expérimentons et ne faisons pas comme l'a dit par exemple Emmanuel Macron, le bilan des écoles de Marseille avant même qu'il ait...
Juste pour conclure un mot sur Marseille, il ne s'agit pas du tout de mettre l'autonomie au principe de l'établissement, ce n'est pas du tout ce qu'a dit le président de la République, il s'agit de donner la possibilité aux enseignants de proposer des enseignements innovants pour 2 heures et pour le chef d'établissement de donner son avis sur ses collègues. Mais si vous voulez, ce n'est pas du tout ce qu'on envisage comme réforme totale de l'autonomie. Mais encore une fois, il faut expérimenter et on verra si ça donne de bons résultats. Il faut prendre le temps, je suis tout à fait d'accord. Ça suffit, ces grandes réformes systémiques qui inévitablement vont dans le mur parce que les personnes ne sont pas prêtes.
Merci Monique Cantos-Perbert. Merci à vous tous. C'est passionnant ce débat parce que c'est l'avenir de nos enfants, l'avenir de l'école. Monique Cantos-Perbert, une école qui peut mieux faire aux éditions Albin Michel. Philippe Vatrolo qui publie « Je suis un pédagogiste, gommez les clichés, construire une meilleure école ». Merci à Patrick Romain, mot d'excuse, les parents écrivent toujours aux enseignants au Cherche Midi. Et merci à Laurent Fragerman, nos invités, 11h58. Allez, un peu d'infos, un peu de météo, des courses, et puis nous nous retrouvons après-midi. Merci.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Avec un sujet douloureux pour terminer cette émission de 2h, vous appelez 0826-300-300, le cas de bébés secoués est en train d'exploser, Je mesure le mot, mais tout de même, pendant la pandémie de Covid-19, le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne et la mortalité a été multipliée par 9. C'est une étude conduite par l'hôpital Necker. Félix Mathieu.
Oui, 32 cas de bébés secoués en région parisienne l'année dernière et même 9 décès contre 1 l'année précédente. En majorité, les pères sont en cause, mais c'est aussi les nounous babysitters. D'après cette étude de l'hôpital Necker dévoilée par Le Parisien aujourd'hui en France, des bébés secoués sur un geste d'énervement de l'adulte, geste d'impuissance souvent à calmer leurs pleurs notamment. Alors au-delà de l'Île-de-France, on parle de 400 à 500 nourrissons victimes de ce syndrome du bébé secoué chaque année en France. Quand ça n'aboutit pas au décès, les dommages sur le jeune cerveau ou les vertèbres peuvent causer des séquelles à vie, épilepsie, problèmes de vue, des troubles du langage ou encore des paralysies.
Stéphane Clergé, bonjour. Allô ?
Oui.
Stéphane Clergé, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes pédopsychiatre. Vous êtes confronté, parfois à ces cas de bébés secoués.
On peut effectivement avoir des suspicions, en effet.
Et la suspicion, comment la sentez-vous ?
Ben sur un bébé qui a un retard de développement et qui surtout présente des hématomes. Alors là, c'est plus les pédiatres qui le constatent, hein, un enfant qui a des contusions. Mais ça peut être un enfant qui a une somnolence, qui a un corps un peu rigide ou des mouvements anormaux ou parfois des difficultés à respirer. C'est un enfant qui perd l'appétit, qui perd ses sourires, qui a un moins bon contact.
Est-ce que je me mets à la place des parents? Si j'ai souhaité aborder ce sujet, c'est parce que c'est la rentrée et beaucoup de parents vont confier leur enfant à des personnes que les parents connaissent mal ou peu.
Oui,
Stéphane Clergé.
Oui, vous avez raison. C'est évidemment c'est toujours très inquiétant de confier son enfant à une personne qu'on ne connaît pas. Donc c'est important de pouvoir échanger avec elle, de pouvoir avoir un maximum de garanties. Et c'est important aussi que la société, j'allais dire, nous garantisse sur à la fois la compétence et le bon équilibre du professionnel à qui on confie notre enfant.
Il y a cette angoisse et évidente, hein, Stéphane Clergé. Vous êtes pédopsychiatre, les parents vous font part de cette angoisse, j'imagine.
Oui, bien sûr. C'est jamais facile de confier son enfant, surtout qu'on se sent parfois coupable de ne pas rester avec son bébé. Et le paradoxe, c'est qu'on se sent coupable de devoir aller travailler.
On se sent coupable de devoir aller travailler, oui. Et on est inquiet, on est angoissé, on se sent coupable, évidemment. Évidemment. Oui. Je suis aussi avec maître Sylvie Vernassière.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour maître.
Bonjour monsieur Bourdin.
Vous avez été confronté à des cas de bébés secoués et quelles conséquences pour les auteurs, pour celles surtout sont des femmes ou des hommes parfois. Comment ça se passe? Il y a peut-être des conjoints, peut-être que, lors de conflits familiaux ou...
Alors effectivement, notre cabinet traite un très grand nombre de dossiers de syndrome du bébé secoué. C'est un domaine dans lequel j'exerce depuis 15-20 ans. Donc pour revenir sur les propos qui ont été tenus, je pense que c'est important de signaler que la majorité des enfants qui sont secoués ont moins de 6 mois. C'est important parce qu'en fait, on est dans une période charnière où, la maman qui souvent est en congé parental doit retourner au travail et effectivement peut avoir beaucoup d'angoisse à confier son enfant qui est encore très petit. Et c'est vrai que c'est une période où il est particulièrement vulnérable et où il peut être sujet à cette maltraitance grave. Alors, il y a des enfants qui sont secoués après 6 mois également jusqu'à l'âge de... On s'entend pour dire jusqu'à l'âge de 2 ans, mais vraiment la grande majorité, c'est jusqu'à 6 mois.
Jusqu'à 6 mois. Et qui est l'auteur? Quels sont les auteurs de ces actes? C'est affreux. Hein,
mais... Alors, selon les études, l'auteur principal, c'est le père ou le beau-père.
Le père ou le beau-père.
Voilà, donc qui intervient vraiment loin devant les autres auteurs et suivi de l'assistante maternelle ou nounou, hein, quand elle n'a pas le titre d'assistante maternelle, et suivi, mais vraiment en très large minorité, de la maman.
Suivi de la maman. L'auteur qui est le conjoint, donc, le compagnon. Mais quelles sont les causes, les raisons de ces comportements?
Alors, on aimerait bien pouvoir répondre à cette question. Hein. Vous vous interrogez sur, par exemple, les causes du viol. On est sur le même genre de problématique. C'est difficile de répondre. On est sur une personne, en fait, qui va... va franchir une ligne, en fait, ne va pas se retenir d'infliger à un enfant des actes qui vont lui faire du mal. En fait, si vous voulez,
là. Mais c'est quoi ? C'est la colère ? C'est quoi ? C'est la colère ou la jalousie ?
Ça peut être la colère, la frustration, ça peut être beaucoup d'émotions qui traversent la personne secoueuse. Mais si vous voulez, toute personne qui est traversée par ces émotions ne va pas forcément maltraiter son enfant.
Bien sûr.
Secouer un enfant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un acte vraiment violent. C'est-à-dire que c'est un acte qu'on peut comparer à une projection d'un enfant sur un mur, parce qu'on le saisit en fait sous les aisselles. Il faut voir que c'est un enfant qui est la plupart du temps tout petit, donc avec un rapport de force très inégal, et qui est secoué et qui est les yeux dans les yeux avec l'adulte. Donc l'adulte voit l'angoisse de l'enfant et voit qu'il lui fait du mal. Il ne peut pas ne pas le voir puisque la tête de l'enfant ballotte avec une force telle d'avant en arrière qu'on se rend compte que l'enfant risque sa vie. C'est ce que dit l'American Academy de pédiatrique. Un observateur extérieur est conscient que les secousses peuvent être dangereuses, voire tuer l'enfant. Donc on est vraiment sur un acte extrêmement violent. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre en corrélation le secouement avec des émotions qui sont celles ressenties par tous les parents finalement, la frustration, la colère, tous les parents ressentent ces émotions-là. C'est vraiment à mettre en rapport avec un manque de frein, si vous voulez, de frein que l'adulte devrait avoir mais n'a pas. Et c'est toujours le problème dans les infractions qui sont commises. On a des règles, on ne doit pas maltraiter un enfant. Certains parents gardiens vont franchir cette ligne et malheureusement ça cause pour l'enfant parfois son décès, parfois comme vous l'avez dit des conséquences irréversibles qui peuvent être même jusqu'à un état post-relationnel, c'est-à-dire un enfant tétraplégique qui est malvoyant, qui ne pourra jamais s'exprimer. Les conséquences sont telles vraiment que c'est une maltraitance à prendre réellement au sérieux et à ne pas banaliser.
Bien, maître, merci, vous restez avec nous. Stéphane Clerget aussi, je tenais à évoquer ce sujet, il n'est pas facile, vous l'avez compris, vous l'entendez. Néanmoins, il est bon de parler de certaines réalités et d'avertir les uns et les autres. Il est 12h17, vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300, si vous voulez intervenir.
Sud Radio, parlons vrai, chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 12h20, les bébés secoués. Nous sommes avec Marie Lemay. Bonjour Marie Lemay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de l'association Stop Bébé Secoué. Vice-présidente de cette association, vous êtes engagée parce que vous-même, vous avez subi cette agression violente.
Alors, je l'ai subi à travers mon bébé de 6 mois, effectivement, en tant que maman démunie. Mais c'est arrivé à mon petit garçon en 2017.
À votre petit garçon en 2017, dans quelles conditions, Marie Lemay ?
Un petit garçon qui venait de commencer une garde chez une professionnelle. Nous n'étions pas sensibilisés au syndrome du bébé secoué à l'époque, nous ne connaissions pas. Et à l'issue de 10 jours de garde, son état s'est dégradé très subitement et en l'espace de 48 heures, il se retrouve hospitalisé entre la vie et la mort.
C'est-à-dire que vous aviez confié votre bébé, qui avait quel âge ?
Il avait 6 mois.
Vous aviez confié votre bébé de 6 mois à un organisme ?
À une professionnelle, effectivement.
À une professionnelle. À une dite professionnelle.
Effectivement, aux yeux de la loi, elle l'était tout du moins.
Bien. Et comment vous étiez peut-être en train de travailler lorsque vous avez été prévenu que votre bébé... Qu'est-ce qui s'est passé, Marie Lemay ?
Un matin, il allait très bien. Il a été déposé au domicile de cette personne avec des petites photos, des vidéos pour la famille, tout va bien. Et le soir, c'est un bébé totalement métamorphosé, un peu en mode zombie, pour résumer au commun des mortels comment ça peut se présenter. Et méconnaissable, un bébé qu'on a pu retrouver comme il était après cette journée fatidique.
C'est-à-dire, vous êtes allé le chercher, et là, vous l'avez retrouvé dans cet état, tout à coup.
Ah oui, très amorphe. La personne qui le gardait nous a informé qu'il était comme ça depuis un moment, qu'il avait chouiné, etc. Mais sur le coup, on ne s'attend pas à des choses aussi graves. On pense peut-être à une première maladie à 6 mois, pourquoi pas un rhume, quelque chose, une gastro, c'est ce qu'un médecin nous a dit d'ailleurs.
Une gastro, oui. Oui. Marie Lemay, donc vous vous êtes inquiétée très vite, évidemment.
Bien, j'imagine. Entendu. On n'a pas été écoutés comme on aurait dû l'être, malheureusement. Le diagnostic n'est pas toujours simple à poser et malheureusement, on déplore le fait que les professionnels de santé ne sachent pas toujours interpréter les premiers signes qui pourraient permettre justement de venir plus vite au secours de ces enfants dont les heures sont comptées après les premiers secours.
Et la personne qui a fait tant de mal à votre bébé, elle a avoué, elle a, comment ça s'est passé? Elle a été confondue? Comment, Marie Lemay?
Alors non, elle n'a pas avoué. C'est très difficile dans ces affaires-là d'obtenir des aveux. Quand l'enfant décède, il y a plus de possibilités d'en obtenir parce qu'aussi les autopsies permettent de réduire, on va dire, le champ d'action.
Oui.
Quand les enfants survivent, c'est plus difficile puisqu'au moins le matin et le soir, l'enfant est auprès d'un parent ou des deux parents et la journée au domicile d'un professionnel. Donc sans aveu, c'est plus compliqué. Donc en tout cas, on est toujours en bataille judiciaire après 5 ans.
Elle n'a rien avoué.
Rien du tout.
Vous êtes toujours donc devant la justice.
On fait tout ce qu'il faut pour que ça ne soit pas classé sans suite, parce que c'est malheureusement le lourd sort de beaucoup de familles, oui. Alors que nos enfants, c'est perpétuité.
Alors Marie Lemay, justement, quel conseil donner aux parents qui vont confier leur bébé, qui vont confier leur enfant, parce qu'il faut aller travailler, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le garder la journée?
Bien sûr, alors la première chose déjà, ce serait de rappeler qu'il ne faut pas voir le mal partout, mais que communiquer, ça reste fondamental, que ce soit avec le papa au sein du couple ou avec un professionnel à l'extérieur, de parler du fait qu'on peut se sentir parfois dépassé avec un bébé, parce que c'est pas toujours simple, et ça, c'est pas grave. Mais que par contre, ce qu'il faut toujours, c'est penser à sa sécurité, son bien-être, et il faut le poser. Si pour un moment donné, on n'y arrive plus, on supporte plus ses besoins, on n'arrive pas à y répondre, ben on le pose en sécurité, sur le dos, dans son lit, on s'éloigne de lui. Et même si c'est un contrat de travail et qu'on a tous besoin d'argent pour vivre, et ben on informe les parents que c'est trop difficile pour nous à ce moment-là, qu'on ne peut pas faire face avec cet enfant et que pour le bien-être de tous, et ben on va arrêter le contrat ici.
Oui, ça, c'est ce que vous dites à celles et ceux qui gardent ces bébés. Mais oui. Aux parents, quels conseils donnez-vous pour le choix de la personne à qui on confie son enfant?
Bah écoutez, ça, je serais bien embêtée pour vous dire, parce que malheureusement, il n'y a pas de portrait robotique de ce coureur.
Oui, oui.
Et il y a des gens très bien qui peuvent vivre des choses très compliquées à un instant T et qui ne sont plus du tout en mesure de s'occuper d'enfants.
Mais j'imagine, Marie Lemay, que les personnes qui vont s'occuper d'enfants sont quand même bien choisies.
Ah bah oui, parce que là, sinon, je pourrais même moi remettre en doute le choix de la professionnelle expérimentée de 20 ans que j'avais pris pour mon enfant. On ne peut jamais savoir réellement.
C'était une personne dite professionnelle.
Ah oui, bien sûr, avec les agréments, une belle expérience pour elle.
Depuis plusieurs années.
Depuis plus de 20 ans.
Depuis plus de 20 ans.
Oui.
Et tout à coup, cette folie.
Eh bien oui, parce que c'est ce qu'on déplore en fait, que ce soit la profession ou que ce soit un parent, le point commun c'est que ce sont des êtres humains, alors non pas là pour les défendre hein, de ce discours, mais les êtres humains ont parfois des réactions auxquelles on ne s'attend pas, oui. Et les bébés sont tous différents, les besoins sont tous différents, et nous-mêmes on n'a pas la même capacité à pouvoir répondre à ces besoins-là, à pouvoir résister par exemple à des pleurs qui pourraient être longues. Tous les bébés qui ont été secoués n'ont pas pleuré. Mais voilà, on est tous humains, on peut tous avoir des limites, le tout c'est de les identifier et de penser qu'entre nos mains, on a la vie d'un être innocent et que par ce geste de quelques secondes de violence intense peut lui briser la vie ou le rendre handicapé à vie.
Merci Marie Lemay, merci, je rappelle, stop bébé secoué. Un mot Sylvie, enfin quelques mots Sylvie Vernassière pour terminer. Que risque la personne qui a secoué un bébé?
Alors en cas de décès de l'enfant, la personne encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, car il y a une circonstance aggravante qui est toujours retenue, qui est que la personne a autorité sur l'enfant. En cas de mutilation ou d'infirmité permanente, la personne qui a secoué l'enfant encourt 20 ans de réclusion criminelle. C'est des peines très lourdes. Hein. C'est remplacé très haut par le législateur dans l'échelle des peines. Et en cas de violence volontaire ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, donc si on a ce qu'on appelle l'ITT hein, qui est retenue au-delà de 8 jours, dans ce cas-là, la peine encourue est de 10 ans d'emprisonnement. Mais on voit en pratique que les peines sont très très souvent minorées par, par, enfin, elles ne vont pas jusqu'à ces extrémités. On voit même des dossiers où, avec grande surprise, les personnes condamnées ne sont pas interdites d'exercer métiers en rapport avec des enfants, alors que le taux de récidive est quand même très élevé.
Merci Sylvie Vernassière, merci beaucoup. Il est 12h27, merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30, 12h30 tous les jours. Parlons vrai chez Bourdin, vous le savez, demain, tiens, nous allons inaugurer une série, Jeudi politique. Et oui, tous les jeudis, entre 11h et midi, nous ferons de la politique. Nous inviterons des responsables politiques de partis bien différents et nous engagerons des débats sur l'actualité politique. Il est 12h28. Merci de nous suivre sur Sud Radio. André Bercoff sera avec vous, évidemment, dans quelques instants.